Dieu ne peut vouloir d'un roi qui suit les siens, disions-nous au dernier épisode concernant la destitution du roi Saül. Un roi, le mot roi, c'est rex en latin, ça vient de regere, qui veut dire régir, c'est-à-dire diriger, gouverner, conduire. Et d'ailleurs, le mot de duc, le roi, le duc, duc c'est dux en latin, et c'est également celui qui conduit. Donc un roi, un duc, un chef, c'est fait pour conduire les autres et non pas pour suivre les autres. Et la démagogie, c'est le fait de se laisser emporter par un courant ou par une pression, d'une manière ou d'une autre, et de céder. Alors que céder pour des choses qui, quelquefois, il est honorable pour les chefs d'entendre ce que les autres suggèrent et d'entendre les conseils en particulier, ça c'est extrêmement important. Et un évêque a aussi de nombreux conseils et puis il a constamment à écouter ses conseils, mais ensuite la décision c'est lui qui la prend. Donc et personne ne peut remplacer le chef dans la décision qu'il a à prendre et dont il garde la responsabilité. Et ce qui n'est pas loin d'être facile. Mais donc il s'agit de conduire les autres, non pas selon son sentiment et pour son propre bien à soi, mais pour le bien de ceux dont on a reçu la charge. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce que n'a pas compris et n'a pas su faire le roi Saül. Et Saül demande pardon tout de même. Maintenant, implore-t-il du prophète Samuel, je t'en prie, pardonne ma faute, reviens avec moi, que j'adore le Seigneur. Mais Samuel répond à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur t'a rejeté pour que tu ne sois plus roi sur Israël. Et c'est un peu curieux que David sera un grand pécheur aussi, mais Dieu ne l'écartera pas de la même manière, c'est assez mystérieux. Malgré le repentir de Saül, Dieu ne revient pas sur sa décision d'écarter le premier roi d'Israël. Manifestement, et c'est la raison profonde, impropre au gouvernement des hommes et incapable de garder une ligne de conduite contre vents et marées, ce que récemment dans une de nos conversations nous disions à propos de ce film sur les heures sombres et qui passe actuellement au cinéma sur Winston Churchill dans les années 39-40 qui était si difficile au moment de la débâcle. Il semble même que la demande de pardon formulée par Saül est fortement inspirée par le souci de ne pas perdre la face. Il tient essentiellement à ce que le prophète l'accompagne pour un acte sacré. Et Samuel refuse et s'en va. Comme il se détournait pour partir, Saül saisit le pan de son manteau qui fut arraché. Et Samuel lui dit, « Aujourd'hui le Seigneur t'a arraché la royauté sur Israël et l'a donné à ton voisin qui est meilleur que toi. » Saül s'accroche littéralement à Samuel, ce qui est encore une réaction de faible. La déchirure qui s'ensuit est interprétée par Samuel comme une leçon de choses, si l'on peut dire. C'est peut-être le premier geste prophétique engendré dans la Bible, enregistré dans la Bible. Elle en comptera bien d'autres jusqu'au Nouveau Testament inclusivement. Du temps de Salomon, par exemple, le prophète Aïa de Silo déchire en 12 morceaux le manteau neuf qu'il porte et en donne 10 morceaux à Jéroboam pour signifier le prochain schisme du royaume du Nord qui laissera seul la tribu de Juda. Et de la même manière, le prophète Agabus, au nom un peu drôle, se lie les mains et les pieds devant Paul, de l'apôtre Paul, en disant « Voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront comme ceci à Jérusalem et ils le livreront aux mains des païens. » Donc non seulement sa propre destitution est signifiée à Saül, mais encore l'avènement d'un successeur qui prendra sa place. La royauté va être donnée, je cite, « à un voisin meilleur que lui, moyen que toi, un voisin meilleur que toi. » On peut se demander pourquoi le rédacteur parle de David sous l'appellation de voisin. Le terme hébreu signifie primitivement ami ou compagnon. Dans le contexte, ces deux mots ne conviennent pas, puisque Saül et David ne se connaissent pas, autant qu'on puisse le dire. Par contre, la tribu de Benjamin, qui est celle de Saül et celle de Juda, où se trouve Bethléem, la cité de David, sont contigues, ce qui peut expliquer que Saül et David soient qualifiés de voisins. Non, ce voisin du roi d'Israël, qui va être choisi pour le remplacer, est dit « meilleur que lui ». En quoi David est-il meilleur que Saül ? Nous aurons l'occasion de constater que David, nous le savons bien, n'est pas parfait, est très 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 loin de là. Et parce qu'il est même un assassin de doublé d'un adultère, donc ce n'est pas un enfant de cœur d'aucune manière. Et il commettra de lourdes fautes. Cependant, foncièrement, il est droit. Il n'est pas suspect de faiblesse ou d'hésitation comme Saül. Tout d'une pièce, dans le bien comme dans le mal, on peut dire qu'il a séduit le Seigneur. Quand il a péché, il le reconnaît tout de suite sans chercher de fausses excuses. Il est un meneur d'hommes au grand cœur. Dieu regarde le cœur et celui de David comble ses vœux. À bientôt, la suite de cette histoire.